Nos invités du jeudi aujourd'hui, parce qu'ils seront plusieurs, va se dérouler à la médiathèque de Saint-Paulien, la médiathèque dont s'occupe Pascal Blasi. On retrouvera Luc Bergougnou, un auteur de Polar, et Valérie, qui est responsable des éditions créées, et plusieurs lectrices qui ont lu les différents livres de Luc Bergougnou. On retrouve tout de suite donc Luc Bergougnou et tous ses invités. Voilà, et bien c'est une tradition. Au mois d'avril, on se retrouve à la médiathèque de Saint-Paulien avec notre ami Pascal Blasi, hein, qui organise cette émission, en fait, puisque on va faire une émission, vous l'avez compris, sur un livre ou plusieurs livres avec un auteur, Luc Bergougnou, qui est avec nous et qui on va découvrir, que je vais découvrir moi, parce que je ne le connais absolument pas. J'ai lu un peu son histoire, oui, en plus il est prof d'histoire, donc et donc avec les lectrices qui viennent à la médiathèque et qui ont lu, elles, ses livres. Et on va commencer tout de suite avec Valérie. Alors Valérie, c'est les éditions créées. Donc Valérie, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes située à Brioude, vous ?
Je suis installée à Saint-Just près Brioude, à côté de Brioude.
Oui, à côté, oui.
Donc la maison d'édition a été fondée par mon père en 1976.
Ah oui, il y a des années quand même.
Il y a quand même pas mal d'années.
Oui.
Et moi j'ai repris depuis 2006. Enfin, 2003, la partie diffusion-distribution, et 2006, la partie édition. Donc, depuis 2006, je suis aussi éditeur. Voilà. Et donc, on doit à mon père des ouvrages assez connus sur l'Auvergne, comme Margaridou, Maison paysanne et vie traditionnelle en Auvergne, enfin, des beaux livres. Et moi, j'ai essayé, depuis donc, 2006, de continuer dans cette voie-là et d'ouvrir un peu les collections aux romans policiers de Pascal, de Luc, etc. Voilà.
Vous êtes baigné dedans toute petite, alors ?
J'avais 9 ans quand il a monté la maison d'édition, donc oui, j'ai grandi avec, oui.
Et ça a toujours été votre choix de rester...
De rester en Auvergne ? Alors moi,
rester en Auvergne, non, mais de continuer ce qu'avait commencé votre papa.
Mais j'ai travaillé pendant 10 ans comme ingénieur informatique en société de service, donc d'accord. J'ai travaillé à Paris, à Rennes, à Bordeaux, enfin bref. Ouais. Et j'ai repris qu'en 2003, quoi.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, papa voulait commencer un peu à arrêter, à laisser tomber. Et moi, je venais d'avoir des jumeaux, et en société de service informatique, les jumeaux, c'est la porte assurée. Donc, je n'ai aucun mal à négocier un licenciement.
D'accord.
Et à pouvoir donc reprendre la maison d'édition. Mais c'est vrai que ça me tient à cœur.
D'accord. Pas trop compliqué ?
C'est compliqué, si, c'est compliqué. Alors, depuis 2014, la société a été placée en redressement judiciaire. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une liquidation.
Non, non, non.
Voilà, j'ai une opportunité de continuer. Simplement, je n'ai plus de salarié, donc je travaille seul, ce qui est quand même assez compliqué.
Oui.
Et pour l'instant, le remboursement de la dette se passe bien, je suis à jour, et j'espère sortir de cette situation dans les 2-3 ans qui viennent, de façon à vraiment relancer la maison d'édition.
Ouais, c'est toujours très compliqué. Hein,
c'est très compliqué, et puis c'est vrai que...
Dès qu'il y a des salariés, de toute façon. Non, mais c'est vrai, il y a des charges, il y a tout, et derrière, il faut que le chiffre suive. Hein,
c'est ça.
Et c'est compliqué, mais c'est vrai, d'être en redressement, c'est bien, parce que ça permet d'étaler les dettes et de continuer votre activité. Quoi.
Absolument.
Très bien. Alors, on va parler de Luc Bergougnou dans quelques instants. Donc, on a avec nous deux Monique, deux Chantal et une Annie. Qui sont des lectrices et qui ont lu les livres de Luc Bergougnou. Donc Luc, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur d'histoire-géographie.
Oui, tout à fait.
Dans la Nièvre.
Dans la Nièvre.
Voilà.
Oui.
Et en plus, vous êtes écrivain.
J'essaye, en tout cas.
Ah ben, j'essaye. Ça a l'air d'être pas mal quand même, parce que...
Ben, ça fait une dizaine d'années maintenant que,
ouais.
que
vous êtes écrit. À combien d'éditions de livres ?
6.
6, d'accord.
Si je ne me trompe pas, oui. J'ai commencé à écrire d'abord aux éditions du Roux, à Pauvignac.
Ah, avec Georges.
Avec Georges, ouais. Chanon.
Qui malheureusement nous a quittés.
Malheureusement nous a quittés, en effet. Et donc, Valérie a bien voulu héberger la suite de mes petites histoires. Et donc j'ai sorti les deux derniers romans aux éditions créées, donc, hébergés par Valérie.
Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a amené au polar plutôt qu'à autre chose peut-être ?
Je pense le goût du polar déjà, le goût des polars des autres, des polars italiens, des polars nordiques aussi,
vous en lisez beaucoup?
Oui, j'en lis toujours beaucoup.
Toujours, oui.
Oui. Et puis, j'ai trouvé aussi que c'était un bon biais pour concilier l'histoire et le roman, en fait, puisque je peux utiliser l'histoire comme cadre de mes romans et utiliser aussi le pays que je connais, c'est-à-dire le Haut-Allier, la région du Puy.
Mais parce que vous êtes, il faut le dire, vous êtes originaire de Haute-Loire.
Je suis originaire de Haute-Loire, oui.
D'accord, oui. Vous êtes dans la Nièvre, mais ça, c'est la profession qui vous a emmené là-bas.
Absolument. C'est les hasards des mutations de l'éducation nationale.
Voilà. Alors, bon, vous me direz si je ne dis pas de bêtises. On en parlait avant de commencer. Il y a un rapprochement avec Florence Roche, qui est aussi professeure d'histoire, mmh. et qui, dans ses livres, souvent dans les périodes qu'elle décrit, elle parle des moments historiques de cette période. Mmh. Vous êtes je pense que les dames vont nous le dire. Vous êtes un petit peu dans cet esprit, vous aussi?
Oui, oui, oui. L'idée, c'est de se servir de l'histoire comme d'un cadre, et en même temps de faire passer des événements historiques qui m'intéressent, qui me touchent, et d'en parler. Du coup, c'est l'occasion de les mettre en lumière, tout simplement. C'était le cas dans mes premiers romans, c'était le cas autour de, par exemple, des troupes coloniales pendant la guerre de 14, des gens qui avaient été fusillés pour l'exemple. Je me sers comme ça de moments de l'histoire.
Un moment fort.
Voilà, que le roman me permet de mettre en valeur.
D'accord. Oui, puisque le roman permet beaucoup de choses.
Et oui. Et offre la liberté, en plus, de se libérer de l'histoire par moment.
Alors, j'ai vu que vous avez un héros qui revient souvent, hein, Camille Defoe, gendarme, ancien soldat de la guerre de 14, donc quelqu'un qui a bourlingué. Il revient dans tous vos romans?
Pas dans le dernier. Pas dans le dernier. Non, non. Celui qui vient de sortir, je le situe dans une autre période, avec d'autres enquêteurs, une autre intrigue. Donc, il a rien à voir avec les précédents, celui-là, si ce n'est la Haute-Loire.
D'accord.
Voilà,
vous situez toujours vos énigmes dans la Haute-Loire?
Oui, parce que j'ai besoin d'un cadre qui me soit familier.
D'accord.
Et la Haute-Loire, puis j'ai envie de la partager aussi. J'ai envie de partager le plaisir que j'ai à me promener sur ces chemins. Donc,
La Nièvre, non?
Pas encore.
Pas encore.
Ça viendra peut-être. Hein. J'ai vécu plus longtemps dans la Nièvre qu'en Haute-Loire,
oui.
Désormais.
Oui, mais vous avez les attaches en Haute-Loire.
Mais les racines sont ici, et puis j'ai toujours autant de bonheur à la retrouver.
Alors, je ne sais pas qui c'est qui va commencer. Une Monique, une Chantal, Annie. Monique.
Oui.
Non, mais alors, d'abord, oui. Dites-moi ce que vous avez lu comme livre de Luc. Si vous en avez lu plusieurs ou...
Oui, j'en ai lu plusieurs, bien sûr, le dernier, puis le casque à pointe. Ah oui,
voilà.
L'écureuil sous la neige,
ouais.
L'avant-dernier.
Donc vous avez...
Oui, après, je m'en...
Vous avez découvert Camille.
Oui, bon. Voilà, j'ai découvert Camille aussi.
Alors qu'est-ce que vous pensez, pourquoi vous aimez les livres de Luc Bergogneau? Qu'est-ce qui vous intéresse chez lui? Enfin, chez ses romans.
Chez ses romans, c'est un peu l'intrigue, la situation aussi, parce que je connais un peu le Haut-Allier, voilà, pour les autres, voilà. Et bon, parce que c'est bien écrit, enfin, on suit bien l'énigme et tout. Hein, voilà.
D'accord.
Oui.
Annie, vous les avez lus combien, vous?
Oui, ben moi, je les ai lus aussi.
Tous
Le soldat perdu, casque à pointe, mauvaise mine. Et puis, voilà, j'ai bien aimé, moi, cette atmosphère. J'ai beaucoup aimé la première atmosphère. Et là, ça change totalement. Le livre que vous avez écrit, c'est un autre monde. C'est du mysticisme, c'est un peu... Voilà, c'est autre chose.
Ah oui, c'est, oui, je suis tout à fait d'accord. J'avais envie d'autre chose.
Voilà, il y a moins de références historiques, en fait, puisque c'est plus sur le mystique.
Oui, et puis c'est plus contemporain, puisque
oui.
Ça se passe dans les années 80.
Ça,
donc on est plus proche du présent.
Oui, mais c'est autre chose, mais c'est à connaître aussi.
Alors Chantal,
celui-là par contre c'est un vrai thriller,
oui. Le dernier, on parle
un peu hard,
oui, on parle du dernier là,
un peu hard, il faut être pas être trop sensible, quoi.
Non, c'est vrai.
Pour lire certaines scènes. Mais moi j'ai bien aimé justement ça. Et puis le chemin de Saint-Jacques,
oui.
Ça parle,
oui, oui.
Donc,
le chemin de Saint-Jacques,
tout
il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Le chemin de Saint-Jacques, c'était une idée de Georges Chanon, qui m'avait demandé, à l'époque où je travaillais avec lui, de faire un polar autour du chemin de Saint-Jacques. Et j'y avais réfléchi, j'avais commencé à écrire. Et puis j'étais pas satisfait forcément du fil de l'histoire. Donc je l'avais un peu laissé de côté. Et je l'ai repris l'année dernière. Et finalement, c'est un hasard. Hein. Georges a disparu l'an passé. Mais d'une certaine manière, c'est un peu ce que lui avait envie de voir naître un jour, qui est né grâce à Valérie.
D'accord.
Voilà. Donc, il y a ce point de départ, le chemin de Saint-Jacques. C'était une idée de Georges.
Et c'est le point de départ d'autres romans ?
Oui.
D'accord.
L'idée, c'était de placer une intrigue policière sur cette première étape de la Via Podiendis, entre le Puy et Saint-Jacques.
On se demandait si vous l'aviez fait, le chemin de Saint-Jacques.
Non. Quelques portions autour de Sogue, parce que je me balade beaucoup dans ce coin-là l'été. Mais non, je n'ai pas
un
fait le chemin de Saint-Jacques. Ouais. Ça pourrait être un projet.
Oui.
Alors Monique, vous qui êtes toute nouvelle là.
Oui, alors c'est le seul que j'ai lu pour l'instant.
Ben, c'est déjà pas mal. Donc...
Voilà, c'est vrai que c'est vraiment le côté mystique qui est dans ce livre. Et, comment dirais-je, on a vraiment envie de savoir la fin, quoi, parce que c'est... Mais donc, ça, en même temps, vous parlez donc du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, que bon, moi aussi, plus ou moins, je découvre depuis un petit peu que je suis dans la région. Mais enfin, c'est vrai que c'est un livre assez fort, quoi. Assez fort. Mais très intéressant. Enfin, vraiment, je l'ai lu presque, je ne dirais pas d'entrée, mais presque, parce qu'on a vraiment envie de savoir la fin.
Merci.
Voilà.
Alors Chantal 2.
Moi j'ai bien aimé aussi. Il y a beaucoup d'intrigues. C'est pareil, on aimerait savoir la fin de l'histoire. Il y a plein de mystères. Voilà. Bon après, moi c'est de celles que j'ai lues aussi.
Alors. Vous l'avez tous lu, l'écureuil, c'est le dernier. Hein.
Non.
Ah pardon. Non, c'est la Rose de Géricault. Ah oui, d'accord. Vous l'avez toutes lues.
Oui.
Alors j'ai l'impression quand vous avez commencé à ouvrir le livre là, vous avez dit je vais jusqu'à la fin parce que tout le monde a l'air de dire il faut aller jusqu'à la fin très rapidement.
Oui, c'est quand on commence, on peut plus le lâcher en fait.
Oui. D'accord.
Justement, je trouve qu'on le lit
Annie.
Trop vite. On le lit souvent trop vite parce qu'on veut savoir et on oublie, on perd le
fil.
Le fil souvent. Il se passe plein de choses. À toutes les pages, il se passe quelque chose. Il y a un personnage qui apparaît, il y a un truc qui se fait. Donc il faut souvent le relire.
L'avantage des livres, c'est qu'on peut les relire.
Voilà.
Voilà.
Oui.
Après, il faut dire qu'on l'a lu assez vite parce qu'on
se l'est préparé
quand
on
l'a lu.
Il y a beaucoup de morts. Hein.
Ah oui.
Alors là...
Oui, mais dans les romans, c'est pas grave.
Bah, dans les polars, c'est. Après, c'est vrai qu'il y en avait moins dans les précédents.
Oui, il y avait moins. Mmh.
Et puis, ils ont des morts un peu.
Ils ont des morts un peu
bizarres.
Un peu particulières quand même.
Les autres, c'était plus bon enfant, c'était plus.
Oui, oui.
Alors que là, c'est crash. Hein, c'est...
Là, j'ai voulu vraiment faire un polar.
Oui,
les précédents étaient plutôt dans la veine du roman policier traditionnel, un peu influencé par les romans d'Andrea Camilleri, qui est dans cette idée-là, à la fois d'une intrigue policière parfois un peu sombre, et en même temps quelque chose d'assez gai, finalement.
Oui.
Là, j'essaye de mettre un peu de gaieté au travers de mon enquêtrice, pour compenser justement.
Justement, on a une grande question par rapport à elle, mais on ne peut pas la poser tout de suite.
Je sais. Mais je vous répondrai après l'émission.
Voilà.
Parce que là, vous avez. C'est une femme qui est dans l'intrigue.
Oui, l'enquêtrice est une femme.
Et l'enquêtrice est une femme. Parce que là, Camille, c'est un garçon ou une fille.
Camille, c'est un garçon.
Oui, parce que Camille, ça peut être les deux.
Oui, mais c'est un prénom qui était donné assez fréquemment à la fin du 19e siècle. Et du coup, Camille, donc le personnage des romans précédents, lui est un vétéran de la guerre de 14.
Ouais,
et ses enquêtes se situent dans la fin des années 20, début des années 30.
Pourquoi vous l'avoir voulu mettre une femme, changer.
Ben pour changer.
Pour la parité.
Déjà. oui, pour changer aussi. Et puis, j'avais envie de mettre une femme pétillante, justement pour jeune femme pétillante, pour contrebalancer les aspects sombres du roman et justement le mysticisme qui est très présent. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai construit. Les chapitres sont des stations qui reprennent le chemin de croix. Il y a l'idée de la résurrection, la rose de Jéricho, ça renvoie à ça. Donc oui, il y a ce mysticisme, et en même temps, à côté, il y a cette enquêtrice qui est très légère, elle, et qui n'est pas du tout mystique, qui cherche aucune transcendance, qui est vraiment dans le concret. Et l'idée, c'est vraiment de contrebalancer les deux.
Elle se démène beaucoup.
Ah oui, elle est pleine d'énergie et de vie, au contraire de l'autre personnage du roman féminine aussi, qui elle est dans le coma, en quête de résurrection.
Oui. Ah d'accord, oui, ça a l'air.
Avec le parallèle avec la rose de Jéricho, on a été voir un peu, on a été voir sur internet ce que c'était. Qu'est-ce que c'était
Alors c'est quoi la rose de Jéricho?
Eh bien, c'est une fleur du désert, en fait.
Ah, c'est ça, d'accord.
Qui est
toute sèche.
Toute sèche. Et elle reprend vie quand vous l'arrosez. Voilà.
Ah, d'accord.
Donc, lui, c'est pareil. Il reprenait... Il voulait une autre vie avec Blanche.
D'accord. Donc, ça, c'est le dernier, la rose de Jéricho. Les autres, alors, avec Camille, là... Vous l'avez dit, que vous qui les avez lus, vous ne l'avez pas lu, vous, les autres, vous les avez lus, autres livres.
Il y a quelques temps.
Oui, mais oui, bon, vous en rappelez quand même. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ces livres, alors, avec Camille, là, qui était...
Dans les autres, moi, j'ai bien aimé qu'il aime bien manger.
La gastronomie, l'épicurien.
C'est un bon vivant.
Très épicurien, très... Ça fait petit village, ça fait... C'est moins tordu que celui-là.
Oui, clairement. Oui, c'est pas la même veine.
C'est pas du tout la même veine. Voilà,
Puis avec son copain restaurateur, ils forment une fine équipe.
Oui.
Tandis que.
Il y a beaucoup d'humour, plus humoristique.
Oui.
C'est
plus
la vie du village, quoi, la vie de village. Alors que ça, c'est. Moi, ça m'évoque un peu Granger, les livres de Granger, là, un peu
raide.
Oui,
c'est du thriller. Voilà. Oui, tout à fait.
C'est un autre monde, c'est deux mondes différents.
Oui, et puis dans les précédents, je me sers aussi de la gastronomie locale, de l'hôtelier, donc des plats que pouvait préparer ma grand-mère. Le gargaillou. Oui, quand même une des institutions de
bon
Loire.
Un petit canon.
Ah ouais, c'est la tradition.
Bien sûr.
Alors, si tu es l'hôtelier, c'est la Wouchillac, c'est...
Oui, c'est Saint-Arcandalier, chanteuse.
D'accord, oui, tout ce coin, oui.
Prades,
d'accord.
Voilà, c'est vraiment
un très beau coin de la Haute-Loire, en plus.
Et puis, dans Un écureuil sous la neige, qui est paru aussi aux éditions Créé, qui était le précédent, là, c'est une vallée perpendiculaire à l'Allier, puisque c'est la vallée de la Dège, cette fois. Donc là, je m'enfonce un peu plus dans la Haute-Loire secrète, dans ce roman-là.
La Haute-Loire qu'on connaît moins.
La Haute-Loire qu'on connaît moins. Mais par contre, qu'il faut découvrir.
Oui.
Là, on est en train de travailler sur Pébrac, sur le village de Pébrac, où on va faire un livret aussi aux éditions Créé sur l'abbaye de Pébrac, qu'on va essayer de faire connaître, de valoriser un petit peu, afin d'y attirer à la fois des visiteurs et puis l'intérêt aussi des pouvoirs publics, l'intérêt, pourquoi pas, d'investisseurs pour essayer de faire renaître aussi ces lieux-là.
Ouais.
L'idée, c'est aussi de faire découvrir notre région, quand même.
Qui est très belle.
Oui.
Et qui est très différente.
Je dis souvent aux lecteurs, venez découvrir les lieux où les intrigues se déroulent, parce que ce sont des lieux qu'ils méritent.
Oui, puis c'est vrai, c'est ce que je disais moi aussi, comme je navigue pas mal en Haute-Loire, surtout depuis que j'ai le temps, je suis à la retraite, mais c'est vrai que quand on part, si on part de l'Allier et qu'on va de l'autre côté, on monte jusqu'au Mézin, mais on traverse un paquet de paysages qui sont totalement différents.
Bien sûr.
Moi, la première fois que je suis arrivé du côté du Mézin, c'était lunaire un peu. Non, mais c'est marrant. Alors que je trouve que c'est ça qui fait la force de la Haute-Loire. Et on le sait pas assez, on le dit pas assez.
Oui, c'est vrai.
Valérie, juste, vous êtes venue au polar, parce que c'est vrai que j'ai l'impression quand même que le polar est devenu un peu à la mode. Peu plus, non?
Il y a des modes d'édition, oui, mais moi, le polar, j'ai toujours bien aimé.
D'accord.
J'ai commencé à en publier depuis le début, en fait. Donc, ça fait 20 ans que j'ai vraiment repris. Et les polars, j'ai commencé un petit peu, parce que j'aime bien. J'ai toujours cherché à en faire. Je connaissais déjà les livres de Luc quand il était aux éditions du Roure.
Oui.
et donc je ne suis pas du tout déçu de continuer, mais le livre qu'on va faire sur Pébrac correspond plus effectivement à la veine éditoriale des éditions créées, qui est la mise en valeur du patrimoine auvergnat et autres. Mais le polar, c'est aussi pour moi un peu un petit plaisir, un petit coup de cœur. Voilà, j'aime bien faire aussi ce genre de livre. Et c'est pareil pour les livres Cozy Mystery qu'on publie avec Pascal Blasi. C'est voilà, des petites publications pour me faire plaisir aussi et puis pour enrichir le catalogue. Et c'est une autre façon de découvrir la Haute-Loire, parce que finalement, à travers les romans policiers, ben, voilà, comme on dit, oui, ça amène au chemin de Compostelle, ça amène à aller se balader dans la vallée de l'Adège. Donc ça reste un attachement au patrimoine, mais sous une autre forme, alors, avec un autre lectorat.
Alors, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression, il y a eu cette histoire de Covid. Depuis le Covid, je ne sais pas si ça n'a pas donné des idées à des gens qui n'ont jamais rien écrit, d'écrire, parce qu'ils avaient le temps. Non, mais c'est vrai. Et j'ai l'impression quand même qu'on a vu des auteurs apparaître qui, je pense, s'il n'y avait pas eu le Covid, on ne les aurait jamais eus.
Juste pendant le Covid ou la fin du Covid, on a reçu énormément de manuscrits.
Ouais, vous avez eu le même sentiment.
On a eu beaucoup de demandes de publication, mais beaucoup de gens qui écrivaient sur leur expérience, leur propre expérience. Ouais. Bon, et souvent, c'est pas... Publier un livre, c'est avoir envie de partager quelque chose. Ouais. Alors, on peut avoir envie de partager sa propre vie et sa propre expérience, mais en général, surtout avec soi-même et son petit entourage. Donc, un auteur qui vient me voir en me disant « J'ai écrit ça, je voudrais passer à autre chose », je ne vais pas avoir envie de le publier. Parce que moi, il faut qu'il n'ait pas envie de passer à autre chose. Il faut qu'il soit derrière. Après, une fois que le livre est sorti, si je n'ai pas l'auteur pour me soutenir dans la communication et la promotion du livre, c'est très compliqué. Surtout en littérature. Un ouvrage sur le patrimoine, l'histoire d'une abbaye, bon, c'est l'histoire d'une abbaye, il n'y a pas besoin. Mais un roman policier, c'est différent. Donc oui, il y a eu beaucoup de demandes de publication, d'histoires de confinement, et comme ça... J'ai un ouvrage que j'ai accepté de prendre de M. Philippe Roucari, qui est un auteur du Cantal avec qui mon père avait commencé d'écrire, qui écrit des romans de terroir, romans d'aventure, quelques petits polars sur le Cantal. Mais c'est le seul donc, où il raconte. Mais c'est un homme qui va avoir 100 ans cette année.
Ah, quand même.
Donc j'ai quand même trouvé que ça avait un intérêt, parce qu'il fait un parallèle entre ce qu'il a vécu pendant le confinement, ce qu'il avait vécu pendant la guerre, etc.
Oui, bah, 100 ans, il a de quoi
donc,
parler.
Du coup, il y a de quoi parler. Donc c'est le seul que j'ai publié dans la suite Covid. Voilà. Après, ça a peut-être amené des gens à la lecture quand même.
Aussi, ah
cette
bah oui.
Période où on était enfermé. Donc voilà.
Alors, une autre chose, vous allez me dire, parce que j'ai rencontré d'autres éditeurs. Alors moi, je suis toujours dit, mais comment vous faites pour savoir si un livre il va être bon ou pas bon? Il y en a beaucoup qui m'ont dit, je lis les 3-4 premières pages, et me dit après, je sais si on va l'éditer ou pas.
Oui, c'est vrai que ça se joue.
C'est vrai, ça?
Alors après, moi, je ne suis pas seul non plus à décider, je suis seul à travailler dans la maison d'édition.
Non, mais d'accord, je veux dire, oui.
Mais j'ai quand même un petit comité de lecture, oui, de bénévoles qui participent pour ne pas être seul à prendre la décision, mais c'est vrai que c'est les 10 premières pages qui sont décisives.
Pareil qu'on le sent tout de suite, oui.
On le sent, oui, tout à fait, oui.
C'est vrai, donc c'est bien.
Après, il y a quand même l'entretien avec l'auteur... de voir son engagement par rapport à son ouvrage, l'investissement qu'il peut avoir, etc. On peut recevoir des manuscrits qui sont un peu mal fichus, entre guillemets, mais qui ont un potentiel qu'il faut retravailler avec l'auteur. Et ça peut devenir un ouvrage super intéressant, donc il n'y a rien à négliger. Mais c'est vrai qu'on sait assez vite si on va être intéressé par le livre. Quand j'ai reçu La Rose de Jéricho, connaissant les autres livres de Luc, ça m'a quand même assis, parce que les morts sont violentes, on est pas bon. Mais ça m'a en même temps fait plaisir, parce que je me suis dit, ah ben là, je suis sûr du vrai polar, enfin du polar, c'est plus du polar historique, c'est différent, donc ouais. Voilà, ça m'a donné envie de le sortir. Alors, c'est très différent du travail de Madame Blasi, mais justement, Pascal, c'est ce qui fait la richesse.
Ouais.
Ce qui fait la richesse de la... Même différent des autres policiers, ouais, que je peux avoir, qui, ouais, sont plus... polar terroir, enfin voilà.
Ouais. Mais il y en a pas mal, hein, je veux dire, des auteurs du terroir de la Haute-Loire qui font du roman policier. Il n'y a pas que l'histoire d'expliquer le terroir, mais il y a toujours une intrigue. Et puis à la fin, bon, bah, voilà, des fois c'est assez surprenant, même, mais bon, c'est vrai.
On ne dira rien.
Non, on ne dira
rien. On va pas spoiler la fin.
Donc, Luc, oui, vous avez changé complètement de style.
de style.
Enfin, peut-être pas de style, mais d'idées d'atmosphère. Je trouvais pas mon terme.
J'ai changé d'époque,
ouais.
J'ai changé d'atmosphère. Je garde quand même le fil rouge de l'histoire, puisque l'histoire est là.
Alors, oui.
C'est une histoire plutôt architecturale, c'est une histoire plutôt médiévale, du coup, qui s'insinue dans les années 80. Mais l'histoire est là, forcément. Après, oui, c'est un polar. Voilà, l'univers n'est pas le même que dans les précédents, qui étaient plus légers. Mais je l'ai voulu comme ça. Je l'ai voulu comme ça. Donc je l'assume.
Ah oui,
et donc, vous allez rester sur le polar, vous n'avez pas envie d'écrire autre chose, enfin...
J'ai plein d'envies.
Ouais.
Après, c'est le temps qui manque.
Oui, c'est sûr.
Parfois. Mais oui, j'ai des envies. Je travaille sur le patrimoine, puisque.
Oui, là, vous en parliez, ça, ouais.
On a travaillé, puisqu'il va sortir bientôt sur l'abbaye de Pébrac. J'ai des envies de romans plus classiques. Alors, est-ce qu'elles aboutiront? Ça, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais oui, j'ai des idées. Deux romans, disons classiques, mais toujours inscrits dans l'histoire, ça c'est sûr. On avait discuté à un moment donné de romans historiques.
Oui, parce que j'allais dire.
Ça me fait un peu peur au niveau de la langue en particulier. J'aime beaucoup, par exemple, les aventures de Nicolas Le Floch de Parot, qui sont. Mais c'est une langue particulière, il y a un gros travail à faire sur la langue du XVIIIe siècle, en l'occurrence. Et ça, je pense. Enfin, je ne me sens pas capable de me lancer là-dedans. Mais par contre, sur le 19e siècle, oui, j'aimerais bien travailler sur le 19e siècle et toujours sur la Haute-Loire. J'ai quelques idées là-dessus.
Très bien.
Oui, parce qu'en plus, quand on est prof d'histoire géo, en plus, oui. Je pense qu'il y a des choses qui doivent donner envie de vouloir faire connaître aux gens, parce qu'on ne connaît pas tout, puis on ne connaîtra jamais tout.
C'est ça, et puis parfois des anecdotes, mais qui sont le reflet d'une époque, qui sont le reflet d'une génération... Et des gens souvent méconnus dont on a envie qu'on entende parler un jour, voilà. Et c'était le cas notamment de ces soldats de la guerre de 14 qui reviennent traumatisés, et forcément l'historien, il a du mal à aller saisir ce qui peut se passer dans la tête de ces survivants, finalement. Par contre, le romancier, lui, peut se laisser aller à imaginer comment on survit à ces traumatismes-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est finalement d'aller sur des terrains que l'histoire explore assez peu. Et la liberté de l'écriture offre cette possibilité-là.
C'est ce que vous avez fait.
Ce que j'essaye de faire, oui.
Oui, c'est vrai que la guerre de 14-18, c'est particulièrement... quand même, il y a eu beaucoup de morts, hein, donc...
Oui,
et
puis beaucoup de gens traumatisés,
ouais, c'est ça, voilà,
gens amputés, blessés,
ouais, mais c'est là psychologiquement. On a parlé des gueules cassées, c'est bien 14, sûr. Je ne me trompe pas.
Il y a des gueules cassées à l'intérieur.
Voilà, aussi, et en plus...
Énormément,
oui. Ah, ouais.
Et c'est ça qui m'intéressait aussi.
D'accord. Alors, mesdames, vous lisez beaucoup de polars? Toutes, Chantal?
Assez souvent, oui.
Ouais. Je dirais, c'est votre style préféré ou...
Ça en fait partie, mais j'aime bien les romans aussi. Moi, je suis assez...
À l'eau de rose?
Non, pas qu'à l'eau de rose. Mais j'aime bien changer aussi d'univers, oui, et de registre.
Okay. Monique, c'est pareil.
Justement, oui, après un livre comme ça, j'en ai pris un plus léger.
Moi aussi, c'est pareil, parce que là, c'est vraiment hard, mais enfin, je l'ai lu. Déjà, et... Après, j'en lis de temps en temps,
oui.
Voilà. Mais j'aime bien les romans aussi.
D'accord.
Les romans, mais même sur la vie, sur certaines expériences, voilà.
Annie, où c'est
moi,
pareil?
C'est les romans historiques. Il faut qu'il y ait un fond d'histoire. Il faut qu'il y ait un fond d'histoire pour que ça m'apporte quelque chose. Voilà, j'aime bien que ça soit situé dans une période et découvrir. Voilà.
D'accord. Ouais. Et Monique?
J'aime bien le roman policier.
Oui.
C'est vrai que quand j'étais gamine, j'aimais bien les livres aussi où il y avait une histoire voilà, qui allait aboutir. Après, j'aime bien les romans aussi. Puis bon, c'est vrai que depuis que je suis dans la région, j'ai pas mal lu aussi de romans de la Haute-Loire.
Oui, des gens qui ont écrit. Oui,
des gens qui ont écrit.
Bon, pas mal, hein, les auteurs.
Oui, c'est ce que j'ai
découvert.
Il y a de
quoi faire maintenant.
Oui, c'est ce que j'ai découvert. Que...
Puis un peu tous les styles, quoi, je veux dire.
Oui.
Oui, si, il y en a qui ont.
Bon, oui, où il y a la nature aussi,
ouais.
ça m'intéresse beaucoup aussi. Et comme ça, après, ben, je prends ma voiture et puis je vais à tel et tel endroit. Voilà.
Chantal, c'est pareil.
Moi, c'est pas trop mon style. Non. Enfin, je l'ai bien aimé quand même.
Ouais. Vous ne lisez pas beaucoup de polars?
Non.
Ah bon.
Après des
trucs. À cause, pourquoi?
J'aime pas tout ce qui est meurtre.
Ah bah. Oui,
mais
enfin.
Mais bon. Après, de temps en temps, si. Mais bon, c'est pas. Je préfère tout ce qui est un peu aventure, nature, découverte.
D'accord.
Voilà.
Bon, ben, bah, je vois que. Non, mais c'est vrai, bah, s'il y a un paquet de livres, bon, je ne sais pas combien t'en as, Pascal, à la bibliothèque, mais il y a de quoi lire, quoi. Et puis c'est très différent. Donc
puis on essaye d'acheter dans tous les domaines.
Ouais. Et en donc plus, c'est vrai que c'est.
En plus, on a la bibliothèque départementale aussi qui
nous en fait passer.
Donc on arrive quand même à satisfaire, je pense.
Non, puis elle nous fait découvrir des nouveaux auteurs souvent,
ouais.
Quand il y a le livre du mois.
Ben, ça fait partie de mon travail.
C'est vrai, c'est bien. Ouais. Ou des jeunes auteurs.
Oui, ben, il y en a toujours qui arrivent. Hein. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps, Sabot. Antonin Sabot, tu connais pas, non? Alors lui, c'est un peu space. Hein. C'est un peu du fantastique. C'est bon.
Oui, ben alors, ça perd.
Hein,
ça perd à Pascal.
Valérie aussi, elle a des
nouvelles fantastiques. J'ai commencé à un peu d'Heroic Fantasy.
Ouais. Ouais.
Fantastique Fantasy avec Martine Hermand et puis avec une autre jeune auteure qui s'appelle... Céline Mouret-Coraza, et on a déjà 3 volumes et j'attends la fin en fait pour cet hiver. Donc là c'est de l'heroic fantasy pure.
Ouais, d'accord.
C'est pareil, ça fait partie de ces petites collections où je m'amuse un petit peu.
Ouais.
Qui sont, voilà, je suis en train de finaliser le dernier volume des Béates et Maisons d'Assemblée de Haute-Loire, donc là on est sur du double inventaire.
Ah, ouais.
Historique, c'est des faits, etc. Ah. C'est des ouvrages très importants. Donc voilà, j'aime bien passer d'un
style à l'autre.
D'un style à l'autre, d'un travail d'inventaire très complexe qui va. C'est vraiment des livres de bibliothèque qui vont servir de référence à la Haute-Loire, à des livres de littérature amusante où ça change un peu. Le travail d'édition peut être varié, comme ça c'est plus fun.
Ah ben c'est sûr que quand on parle des Béates, surtout que là il y a eu un renouveau. Il y a beaucoup de maisons qui se sont restaurées, hein.
Bah,
les
vrai.
Maisons de Béate.
Ouais,
et
il ouais, ouais. Ça a été une histoire. Bon, déjà que simplement Haute-Loire par rapport au reste de la France, donc c'est quand même une histoire qu'il faut absolument mettre en valeur, reconnaître, etc. Donc les 5 volumes qu'on a fait avec Sœur Anne-Elisabeth, il y en a 4 qui sont sortis, il en manque plus que un, la région de Brioude, dont je suis en train de finir la mise en page, qui sortira cet automne. Mais voilà quoi, je pense que c'est des livres essentiels pour la Haute-Loire.
Ouais. Bah oui, pour faire découvrir, parce que les gens qui viennent un peu loin de la France, les maisons de Béate, c'est quoi?
Des salons du livre et des fêtes du livre régulièrement. Il y a énormément de gens qui ne connaissaient pas l'existence de ces femmes et de cette histoire.
Oui, bah c'est sûr qu'il y a une vraie histoire.
Il y a
une vraie histoire. Luc, non? Le style comme ça d'aller voir...
Ah si, ça m'intéresse énormément, oui. J'ai collaboré il y a quelques années avec l'Histoire sociale de la Haute-Loire.
Ah bah oui.
Qui était publié aussi
par
les éditions du Roux.
Ouais.
Non, ça m'intéresse énormément. Ils ont fait d'ailleurs des articles sur les Béates dans l'Histoire sociale de la Haute-Loire.
Ouais. Ils ont un cahier qui sort toutes les années.
Oui.
Et qui continue d'ailleurs.
Ils continuent.
On a fait des choses avec eux.
Ouais,
bah là aussi, on découvre pas mal de choses. Hein,
ils font un excellent travail, très bien documenté. Et il y a plein de petits trésors de notre département qu'on trouve dans l'histoire sociale de la Haute-Loire. Il faut vraiment le recommander, le lire et puis le partager, c'est sûr.
Mais c'est vrai que publier des ouvrages sur le patrimoine, ça incite aussi... les gens du terroir, les municipalités, etc., à remettre en valeur ce patrimoine et à le sauvegarder, et à le protéger. Donc c'est aussi dans cet état d'esprit-là.
Ah ben là, on est en plein dedans, parce qu'on est dans la journée du patrimoine. Là. Donc, on est totalement dedans. Hein. Mais c'est vrai que... Oui, parce qu'on a un patrimoine quand même énorme en Haute-Loire. Hein. Il y a vraiment de très belles choses. Vous parlez du Hôtelier, tous ces coins, la Wuchiak, là, c'est magnifique. Hein. Il y a des très beaux villages. Hein, là. C'est vrai que... On prend beaucoup de plaisir, puis il y a l'Allier. L'eau, c'est toujours magique.
Il y a un potentiel qui est considérable et sous-exploité.
C'est ce qu'on dit. Mais je crois que ça vient des gens de la Haute-Loire, ça. parce qu'ils croient que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est toujours mieux. Non, mais c'est ce que je dis parfois. Moi maintenant, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune, mais finalement, avec le recul, je dis, mais des fois, tu es au bout du monde, et tu viens, tu découvres la Haute-Loire, mais il y a des choses qui sont magnifiques, hein, qui sont... et qu'on ne trouve pas ailleurs. Hein.
Oui, c'est, faut être bien clair, hein,
parce que...
Ne serait-ce que la faune et la flore.
Oui, déjà, oui.
C'est beau. Bon.
Mais même quand on arrive sur le Issajo, les sucs, tout ça, c'est des paysages merveilleux. Hein,
Oui, et puis c'est un département multiforme, parce
ouais,
que
c'est, ça.
C'est un peu un regroupement hétéroclite, finalement. Ouais. À Haute-Loire, il n'y a pas l'unité du Cantal,
ouais, voilà,
ou même
ça.
Du Puy-de-Dôme. Donc, c'est sûr qu'entre l'Issingelais, la région de Sogg et le nord du Gévaudan,
ouais.
Le bassin minier de Sainte-Florine, et puis le Velay,
ouais.
Voilà, on est sur des univers quand même très, très différents. Mais ça en fait aussi tout l'intérêt.
Alors, vous avez d'autres... On en a parlé, mais... il y a un autre passé. Souvent, la question qu'on pose à tous les auteurs dès qu'ils ont sur la fin, il y en a qui en ont deux sous le coude. Vous en avez un sous le coude ou pas?
Mais sous le coude, on a le
projet oui,
de son de Pébrac.
Oui, Pébrac, oui. Ouais.
Qui devrait sortir en mai,
oui.
Si tout va bien.
Oui.
Et oui, autour duquel on va communiquer pas mal au mois de juillet, puisqu'il y aura une fête à Pébrac le 15 juillet. Autour de la présentation de l'abbaye et surtout, que je ne vous dise pas de bêtises, ça doit être le 26 juillet, le SMAT de Langeac organise des visites autour du 400e anniversaire de la fondation du couvent Sainte-Agnès, qui est à Langeac, qui est en lien avec l'abbaye de Pébrac. C'est pas le sujet aujourd'hui, donc je vais pas développer ça, mais il y a une visite du SMAT qui est organisée à Langeac le 25 juillet, et puis une à Pébrac le 26. Et ça sera aussi l'occasion de présenter le petit livre qu'on a fait avec Valérie autour de l'abbaye. Voilà. Donc ça, c'est le projet immédiat. Pour la suite, le projet, c'est d'écrire.
Mais oui, d'accord, j'ai bien compris. Mais vous allez revenir sur du policier, bien sûr.
Pas sûr. J'ai bien envie de faire un roman.
Ah d'accord.
Mais voilà, un roman plus classique, un roman plus où il n'y aura pas forcément une intrigue policière, plutôt une expérience de vie. J'aimerais bien aller vers ça. Mais pour l'instant, ça reste un vague projet.
D'accord. Oui, mais bon, il faut avoir des projets. Hein,
sinon... oui, mais, parce que le principe de l'écriture, quand même, surtout quand on n'est pas auteur professionnel, c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait.
Oui.
Si on veut espérer en donner à ceux qui
liront,
c'est la base. Donc voilà, j'attends d'avoir la flamme. Puis...
je ne sais pas si je vous ai demandé, ça vous est venu comment, le fait de vouloir écrire?
Longtemps je n'osais pas, parce que j'avais trop d'admiration pour les gens que je lisais. Et puis à la quarantaine, je me suis dit, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Et donc j'ai commencé à écrire des nouvelles. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés d'ailleurs avec Valérie à cette occasion-là. Et puis, comme les nouvelles avaient l'air d'intéresser les gens qui les lisaient, je me suis dit je vais m'essayer au roman et au roman policier, parce que c'était ce qui me faisait envie à ce moment-là. Donc c'était dans les années, fin des années 2000.
D'accord. Ah oui, donc... Oui, mais je veux dire, déjà, dans votre profession, quand on est professeur d'histoire géo, de par les études, on sait écrire quand même.
Un peu, normalement.
Oui, normalement, bah, j'espère.
Parce qu'on aime raconter les histoires.
Voilà, c'est ça. D'accord.
Parce que l'histoire, ça se raconte aussi.
Bien sûr.
Et y compris dans l'enseignement.
Ouais.
Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Transmettre, c'est aussi partager le bonheur qu'on a à avoir accès à ça. Et donc, l'histoire, ça se raconte aussi, y compris en cours.
Ouais.
Et les jeunes aiment ça, ont envie de ça aussi. Après, il faut qu'ils s'en saisissent, il faut qu'ils l'utilisent pour construire leur propre univers et puis pour gagner leur indépendance. Mais il faut d'abord leur donner ce goût-là, et ça passe par le fait de raconter.
Oui. Vous êtes en lycée ou en collège ?
Je suis en lycée à Nevers.
Et alors, est-ce que des élèves ont lu vos romans ?
Oui.
Voilà, ça c'est intéressant, oui, c'est des jeunes là.
Oui, c'est vrai, les jeunes, oui, j'ai vu des élèves.
Et ils vous donnent leurs sentiments ?
Oui, mais timidement.
Ouais, ben c'est sûr, oui.
Timidement, mais oui. C'est souvent après le bac qu'on a l'occasion de discuter.
Oui, voilà, c'est ça, dès qu'ils sont partis.
Absolument, mais oui.
Ouais.
Et c'est intéressant aussi d'avoir le regard.
Oui, parce que là, c'est des
gens
jeunesse,
qui ont 17 ans, 18
ouais,
17, ans.
Ouais, d'accord.
Qui sont aussi curieux de découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas forcément, puisque eux sont hivernés.
Oui,
pas
oui.
Les
et
oui,
en plus. Oui, voilà. En plus. D'accord. Oui, puis bon, c'est intéressant de. Je veux dire. On voit qu'il y en a qui lisent quand même des jeunes.
Oui,
c'est ça
oui,
qui est intéressant.
Oui, il y a beaucoup plus de jeunes qui lisent qu'on imagine.
On croit,
alors,
ouais.
On en parlait tout à l'heure, parfois ils lisent des mangas, mais c'est
oui,
un
mais
univers,
enfin,
c'est,
oui,
c'est
oui.
De la littérature. Donc c'est un moyen d'entrer aussi dans la lecture qui est intéressant. Et j'ai beaucoup d'élèves qui lisent des romans, j'ai beaucoup d'élèves qui lisent de l'heroic fantasy.
Ouais.
Qui, bien sûr, oui. La lecture n'est pas morte. Hein. Et
heureusement.
Ah ben heureusement, oui. Puis quand on voit le nombre d'auteurs, il y a des belles journées. Oui, Valérie, puisque ça, on parle de livres, alors j'en parlais lors de Livre Évasion avec des auteurs et des gens qui lisent. On en parlait avec Gérard Laroche en plus, et on a parlé beaucoup du livre numérique,
oui.
Mais qui démarre pas du tout.
Alors, moi, j'ai mis en place la numérisation des bouquins depuis que ça existe, en gros.
Ouais.
Et c'est vrai que j'ai pas mal de livres sur les... Je sais pas, il y a 400 titres au catalogue, il y en a peut-être 300 qui sont numérisés.
Ouais.
Mais c'est vrai que les ventes... donc, c'est soit des PDF, soit des e-pub, soit les deux, puisqu'il y a des versions différentes selon
ouais.
Les, pour les tablettes, etc.
D'accord.
Mais il y a plusieurs choses. Déjà, la loi langue ne s'applique pas sur les livres numériques. Ensuite, les revendeurs... font un peu ce qu'ils veulent, donc au niveau des prix. Et au niveau des ventes, ça reste en France assez faible.
Oui, c'est ce qu'on me disait, confidentiel.
Voilà, ça reste un peu confidentiel. Oui. Alors moi, je me dis que bon, bah, c'est peut-être pour l'avenir. C'est vrai que le prix du papier a augmenté de 40% en 3 ans, là, donc c'est assez vertigineux.
Ouais,
il y a ça aussi. Donc imprimer un livre maintenant, ça devient très compliqué.
Ça devient cher.
Ça devient cher, donc oui, il va falloir effectivement communiquer autour de l'existence des livres numériques pour que les gens s'y mettent un peu. Mais c'est une autre façon de lire, un autre mode de lecture qu'il ne faut pas négliger.
Ouais.
C'est vrai qu'il y a des gens qui ont plus de facilité sur une tablette parce qu'ils peuvent éclairer, ils peuvent changer la taille des caractères. Donc quand on a une baisse de vue, des fois, c'est pas mal.
Mm.
Bon, il y a toujours le plaisir du papier. C'est ça, on y a... Moi, j'y suis attaché viscéralement,
voilà.
Mais
c'est
je
ça,
pense que je pense qu'il faut mettre à la... enfin, proposer au public tous les modes de lecture possibles,
voilà.
Pour pouvoir les toucher. Bon. Donc j'ai fait le choix de numériser et de vendre aussi des livres numériques. Bon, pour l'instant, c'est pas très rentable. Peut-être ça le sera un jour, je ne sais pas, on verra.
Ouais, parce qu'il me disait, bon, quand on prend un livre, hein, on est en train de lire une page, mais il me dit, on peut revenir en arrière.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Alors, sur du numérique, c'est compliqué. Hein. C'est pas compliqué,
enfin,
ça
c'est
se
pas...
fait.
Oui,
mais
voilà,
c'est,
une habitude à prendre, c'est
ouais.
Différent. Oui.
Mais je crois que c'est un peu l'histoire de lire les infos sur Internet, mais il y a quand même cette tradition du journal qu'on achète le matin, on va boire son café, et on lit le journal en même temps. Et ça, c'est resté quand même assez...
Oui, et puis il
ouais.
Y a le plaisir d'ouvrir un livre papier, d'avoir
voilà.
L'odeur, de... il
ouais.
y a le contact.
Ouais.
C'est...
La texture, là,
ouais.
Celui que tu viens de sortir, là, le papier d'excellente qualité.
Bah, il est joli, voilà,
moi,
j'essaie.
J'apprécie vraiment ça, c'est l'objet aussi. Hein. Le livre, c'est pas un objet.
Et alors, en moyenne, par exemple, le livre de Luc, là, La Rose de Jéricho, vous tirez à combien ?
Ben, je fais des tirages relativement limités. Là,
d'accord.
On vient de le lancer, donc on a fait 200 exemplaires.
D'accord.
Pour voir un peu comment ça se passe,
oui.
Si ça se passe bien. Comme ça s'est passé, par exemple, pour L'Écureuil sous la neige, je n'ai pas cessé de le réimprimer. Donc,
d'accord. Ouais,
voilà. L'avantage de ces petits ouvrages, c'est que je peux le faire. Je peux faire des tirages, entre guillemets, raisonnés.
D'accord.
Et réimprimer,
oui, réimprimer
en fonction de la demande.
Ouais.
Alors que je ne peux pas faire ça sur un très beau livre qui, lui, va être relié, cousu. Donc
d'accord.
Là, c'est de l'imprimerie offset. C'est différent comme travail.
Ouais.
Donc j'essaie de limiter les risques parce que comme je vous l'expliquais, j'ai pas en redressement judiciaire, j'ai quand même
oui.
Quelques petits tracas.
Oui.
Mais bon. Bon voilà, donc pour l'instant c'est des tirages entre guillemets raisonnés, limités. Et... Mais je vois L'Écureuil sous la neige, comment j'ai été obligé de le réimprimer tout le temps. Et voilà, je ne doute pas que le lectorat de Luc va vite trouver ça.
Mais alors quand on réédite comme ça, par exemple, enfin moi j'y connais strictement rien. Vous faites à 200 exemplaires, mais si par contre vous l'aviez fait à 1000 la première fois, est-ce que ça vaut un prix de revient qui est moindre?
Oui, le prix de revient aurait été moindre, mais il aurait fallu gérer les stocks.
D'accord, oui, non, mais je vous pose la question.
Voilà, l'investissement de base, il était tout de même plus important.
D'accord.
Et 1000 exemplaires, il faut du temps pour les écouler. Donc, il y a tous les autres paramètres qui entrent en compte.
Oui, bien sûr, oui, non, mais c'est ça.
Alors, c'est vrai, vous me dites, j'en ai fait 200, je vais réimprimer. Si le papier continue d'augmenter, ça va me coûter encore plus cher de réimprimer.
Ouais.
Voilà, c'est ambigu, c'est complexe, oui.
Oui, parce que les livres en moyenne, on voit, c'est entre, on va dire, 15 et 20 euros, non, à peu près, c'est ça.
À peu près, oui, c'est 15 euros, oui.
Ouais, je disais,
oui, parce que c'est un papier un peu luxueux, qui a des rabats de couverture. Enfin, j'essaye de faire que ce soit un objet un peu de qualité, quand même. Enfin, voilà, c'est important pour moi.
Bah, la chose qu'on n'a pas parlé, on aurait pu commencer par là, hein. Enfin, c'est de ma faute. La couverture, parce que c'est toujours important, la couverture. Mm-hmm. Alors, certains me disent... C'est l'éditeur qui choisit, c'est vrai ou pas ça?
Bah oui et non. Je choisis en général avec.
Non, mais je sais pas, il y en a qui disent ça.
Il y a des auteurs qui n'ont absolument aucune idée de couverture, ouais. Donc à ce moment-là, c'est moi qui fais des recherches et qui fais des propositions. Des fois, l'auteur a vraiment une idée très précise. Là, en l'occurrence, lui qui avait fait des bonnes photos du petit personnage qui est à Moissac, là, et que j'ai trouvé ça excellent. Bon, voilà, on cherche des idées ensemble. C'est pas.
Oui, oui.
Moi, je suis pas fermé à des idées
d'auteur. Non, mais parfois.
C'est vrai que si on a une collection qui est très rigoureuse, à ce moment-là, on va pas laisser l'auteur s'en mêler. Mais bon, moi, c'est pas mon cas. J'essaie de garder un peu d'ouverture et de diversité.
Et ça, c'est envers vous, les lectrices. Est-ce que ça a de l'importance pour vous quand vous prenez le livre?
C'est clair.
Oui. Parce qu'il attire l'œil déjà.
Ça attire l'œil.
Ouais. Ça joue beaucoup.
Ah oui.
Il vous appelle. Ouais, c'est ça.
Ouais. Alors moi, je sais que c'est le quatrième de page. Parce que je vais faire amende honorable, je lis aucun livre. Non, parce que je suis pas Bernard Pivot, moi. J'ai pas des gars derrière. Non, mais j'ai pas le temps. Mais je le dis toujours, je le répète, le seul livre que j'ai lu, mais j'étais mauvais. Mais mauvais. Parce que je me suis focalisé sur des choses. Alors que là, moi, je prends un peu comme un film. Je regarde le quatrième de page et je le découvre avec l'auteur, en fait. C'est-à-dire qu'avec l'auteur, on parle. Il me répond, ça me remet des choses, mais voilà, je me focalise pas sur certaines choses. Et c'est vrai que alors, les premiers que j'ai faits, les gars me disaient, ils étaient un peu hésitants, mais maintenant ça va, ils le savent, tout va bien. Non, mais c'est vrai, hein, c'est comme ça, quoi. Mais oui, ça, c'est vrai que le quatrième de page aide bien à savoir quand même.
Mais c'est un résumé, quand même.
Oui, c'est un résumé, résumé en général.
Enfin, on regarde la première et la dernière page.
Ouais, c'est vrai que c'est un.
Et après,
un bon résumé.
Et après, on découvre.
Il faut l'ouvrir quand même après.
Oui, après, on découvre.
Qu'est-ce qu'on peut dire encore, mesdames? Alors, si, tiens, vous lisez combien de livres par an? Allez.
Par mois?
Par mois, si vous voulez, oui.
8, moi, à peu près.
8, Chantal, Monique.
Monique, 4, puis ça dépend de la grosseur.
Après, oui, non, mais bien sûr, si vous avez un livre de 400 pages, je comprends bien que vous n'allez pas le lire.
Oui,
mais
ouais,
en mer moyenne.
Oui.
Annie aussi.
Deux par semaine, oui.
Ah, quand même, hein.
Oui. Pas deux par semaine. Oui.
Vous lisez beaucoup, quoi.
On a le temps.
Ah bon? Ah ben, c'est bien.
Puis on aime ça aussi.
Ah bah, si vous n'aimez pas, alors. Monique.
Oui, en moyenne, 3 à peu près par mois.
Ah oui.
Par mois.
Et Chantal?
Bien, 4 par mois.
Ah oui, d'accord. Oui. Ouais, ça fait une cinquantaine
d'années. 4-5, ça dépend. Puis ça dépend de la période de l'année.
Voilà. Oui, aussi, il y a ça. Ouais. L'hiver, on est plus incité à lire, c'est vrai. D'accord. Oui, donc ça fait quand même, c'est pas mal. Hein. Ça fait 50 livres par an. C'est quand même pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on peut rajouter alors sur Luc Bergougnou, si vous avez du mal à lui dire sur lui, il faut le dire, là, il est là. Hein. Non, je rigole.
Donc, vous voulez savoir quand vous avez écrit ce livre? Est-ce qu'au départ, vous saviez déjà à la fin ou c'est venu
non.
Petit à petit?
Non. En fait, j'ai beaucoup de mal à écrire un script et à m'y tenir. Parce que au fil de l'écriture, des idées nouvelles arrivent. Des idées meilleures, enfin, en tout cas, que je pense être meilleures. Et donc, je pars sur d'autres chemins que ce que j'avais pu imaginer à la base. Donc, il n'y a pas de script. Il y a un projet global. Et après, c'est au fil de l'écriture que je fais évoluer mes personnages, que je fais évoluer les situations. Là, il y avait quand même au moins deux fils rouges dans La Rose de Jéricho que j'ai tirés. Mais en effet, j'avais absolument aucune idée de comment le terminer. Et d'ailleurs,
j'ai beaucoup hésité.
Ah, oui. Heureusement.
Là-dessus. On va rien dire. On va rien dire.
On le dira.
Ouais, la fin est originale.
Oui, la fin mystérieuse.
La fin est originale. Et moi, j'ai bien aimé. Voilà.
Bon, ben oui, c'est, si la chute si est bonne. Ça, c'est un peu peut-être ce qu'on parlait des nouvelles. C'est un peu le problème des nouvelles. Il faut faire 4-5 pages et il faut que la chute soit...
Ah oui. Ah ben ça, oui.
C'est difficile pour ça, la nouvelle. Hein.
Ah mais c'est ça, c'est un format complètement différent. Mais oui. C'est aussi le jeu qui ça est intéressant aide. Dans la nouvelle.
Et ça aide pour écrire des romans, après ?
Oui, parce que déjà, il y a la construction. Une nouvelle, ça doit être extrêmement construit. Et un roman aussi, quand même. Il faut qu'il y ait une construction oui. et que ça tienne la route. Et puis, ça aide aussi à gagner un peu en confiance. Ça aide aussi à se dire, ça tient la route ce que je fais, donc je peux passer à l'étape suivante. Voilà. Mais oui, c'est une bonne école, la nouvelle, je pense. Et d'ailleurs, je regrette qu'elles soient moins prisées aujourd'hui qu'elles ont pu l'être dans le passé.
C'est dommage. C'est
vous en avez édité beaucoup.
J'en ai publié quelques-unes et j'aime bien, c'est un style que j'aime bien aussi, comme les polars. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un lectorat... Ou du moins, je n'ai pas réussi à faire connaître les ouvrages pour vendre des livres. Mais j'en vends assez peu, alors que j'ai des bonnes choses. Janine Nouchi, par exemple, qui malheureusement est décédée, j'avais publié deux recueils de nouvelles. Elle était originaire de Beauzac,
d'accord.
Donc de Haute-Loire. Et ouais. ces recueils de nouvelles, moi, je les ai trouvés excellents. Il y a un petit peu de fantastique dedans, il y a un peu de mystère. C'est toujours tourné autour des femmes, donc ça me touche aussi pas mal, etc. Et je les ai amenés pour vous les présenter, mais... Voilà, c'est des livres qui ont du mal à trouver leur public.
Alors, puisque vous parlez de ça, il y a aussi un style qui est très difficile, c'est les poèmes.
À la poésie, oui. Alors ça, j'en publie pas.
J'en publie aucun, ouais, mais je le vois parce qu'on reçoit quelques auteurs, mais c'est très très peu qui font de la poésie.
Il y a
des choses
de
qui sont pas mal. Hein,
Des ouvrages de photos avec des petits haïkus, avec des petits poèmes, mais c'est plus un livre de photos, donc je vends en tant que livre de photos qu'en livre de poésie.
On voit très peu de gens d'ailleurs dans les salons qui se consacrent vraiment à la poésie.
Il y en a toujours et je trouve qu'ils sont courageux.
Ah oui, ils sont courageux, oui, parce que. Ouais. Et souvent c'est pas mal, hein. Il y a des belles choses. Mais bon, ça démarrera peut-être un jour, hein. C'est plus compliqué. Hein. C'est plus compliqué.
Il y a quand même une tradition française de la poésie.
Oui, on a eu des poètes.
Il faudra retrouver. Ouais. Et qu'on retrouvera sans doute, parce que c'est souvent des courants dans la littérature qui disparaissent et puis qui reviennent.
Hein. Ouais.
La poésie, c'est quand même un des champs les plus importants de la littérature.
On dit que la mode est un éternel renouvellement.
C'est, ça,
hein.
c'est
exactement ça. Hein, donc. Alors pour terminer, les éditions créées, comment on fait pour vous contacter? Vous avez un téléphone, vous avez un mail,
Oui, j'ai un site internet, www.edicreer.com, E-D-I-C-R-E-R.com. Donc où il y a les livres des éditions créées, il y a aussi quelques livres des éditions des Monts d'Auvergne, des éditions acquis, de Benjamin Chapp, l'atelier du chaman. Donc c'est des confrères que j'aide à faire connaître à travers eux. Voilà, donc je peux revendre leurs livres sur mon site. Ensuite, j'ai une petite boutique à mon bureau, donc à Flora, sur la commune de Saint-Just, près Brioude, en pleine campagne. Mais à l'occasion d'une randonnée, ça peut être sympa de venir voir la boutique et d'acheter quelques livres au passage. Donc c'est possible aussi. Et un téléphone, oui, bien sûr, il est sur le site aussi, un portable fixe, on peut me joindre facilement par mail. L'adresse mail, c'est editioncreée@wanadoo.fr, en un seul mot, pas d'accent, voilà.
Vous avez le pendant de l'autre côté de la Haute-Loire.
Voilà.
Lecture sous l'arbre.
Lecture sous l'arbre, je connais.
Bien sûr. C'est bien, lui, il est en pleine nature aussi.
Il est en pleine nature aussi. Ouais. Oui, et puis c'est un très bon travail qu'ils font.
Ah, ils font. À toutes les années.
Ouais. On s'est revu un salon des éditeurs indépendants à Lyon. Ouais. Il n'y a pas longtemps, là.
Oui, il fait l'été, là, il fait une semaine. Là,
magnifique, oui.
Ouais, j'y étais plusieurs fois. Lui aussi, il est dans la nature. Hein. C'est vraiment la nature.
Mais on est bien tranquille avec Internet, la fibre. On n'a aucun souci de communication. Donc, ça permet aussi de stocker les livres parce que ça tient de la place, hein, des stocks de livres.
Peu,
donc, en pleine ville, vous n'avez pas des grands hangars.
Non. Alors
qu'à la campagne, oui. Donc, ça a ses avantages d'être à la campagne.
Donc j'ai compris que vous étiez une passionnée, parce que pour faire un métier comme ça, il faut être passionné, c'est compliqué.
C'est compliqué, il vaut mieux, voilà, toujours ça. Mais c'est grâce à mes auteurs aussi, ceux qui me soutiennent, franchement, ça me porte. J'ai envie de continuer pour eux.
D'accord.
Voilà, c'est important, ils sont engagés à écrire un livre, ils ont envie de partager ce livre, et c'est à moi de faire le relais, donc il faut que je me bouge.
D'accord.
C'est important.
C'est ce que vous avez ressenti, Luc, quand vous avez rencontré Valérie ?
Ah oui, 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 complètement. La passion du patrimoine, la passion de faire partager les livres. Et puis ce que dit Valérie quand elle dit « je veux accompagner mes auteurs », bah, nous, on le ressent aussi.
D'accord.
À son égard, c'est-à-dire qu'on a envie que les livres marchent aussi pour que les éditions créées vivent.
Ouais.
Donc c'est un partage, hein. Un livre c'est un partage, hein, entre un auteur et un éditeur, hein. Ça fait pas de doute, et là on le ressent bien, hein.
Oui, et puis Valérie, elle est toujours à notre écoute et toujours aux petits soins pour nous, et toujours disponible, donc c'est vraiment appréciable.
Merci.
Eh bien, écoutez, je crois qu'on n'a pas tout dit, mais presque. Donc, on ne peut pas dire la fin, donc vous serez obligé de lire le livre.
Oui.
Donc je rappelle, le dernier, c'est La Rose de Jéricho, donc aux éditions créées. Et puis il y a tous ceux qui étaient avant, hein. Donc vous les découvrez. Si vous ne connaissez pas Luc Bergugno, je pense que quand même vous êtes assez connu en Haute-Loire.
Modestement, hein, mais...
Ça commence.
On peut trouver les livres, en tout cas.
Oui, bah, c'est dur, heureusement. Ok, bah, merci à toutes. Hein, merci au Monique au carré, au Chantal au carré, et à Annie, puis surtout merci à Pascal, bien sûr, qui organise ces rencontres, qui sont toujours très sympas, hein, Pascal. Ça fait plaisir de
toujours un plaisir de...
À la médiathèque.
Oui.
Voilà. Bah, merci à tous.
Merci.
Et puis,
merci.
Bonne route à La Rose de Chéricou.
Merci beaucoup.
Fancy gloves though, where's Maggie dear? So there's not a trace.
Voilà notre invité du jeudi, une émission que vous retrouvez le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30.
Who's in life? Someone sneaking around the corner. Is there someone? Mac the knife from a tugboat by the river. A cement bags drooping down